Si vous voulez vous tourner dans Romains 9, nous allons continuer l'étude. Pierre, la semaine dernière, a déjà commencé le chapitre 9, mais j'aimerais relire avec vous le chapitre dans sa totalité. Donc on va lire à partir du verset 1. Dans Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse, je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, « Pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet, dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, s'il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs, c'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Alors Pierre a parlé déjà des versets 1 à 13, Mais c'est un passage qui est un petit peu difficile à aborder si on revient pas, si on le prend pas dans son intégralité. Les chapitres 9, 10 et 11 sont un peu un tout qui se tiennent ensemble, qui parlent d'Israël, qui parlent du plan de Dieu vis-à-vis d'Israël. C'est un passage qui tombe un petit peu bizarrement dans l'exposé que nous avons jusqu'ici de Romains. Alors évidemment, on parle de Paul, c'est pas quelqu'un qui faisait un peu n'importe quoi dans ses discussions, dans ses discours, dans ses raisonnements. Il sait où il veut aller, et donc c'est pas quelque chose qui est un accident pour lui. Mais ça contraste vraiment avec le discours jusqu'ici, avec le raisonnement et surtout avec la fin du chapitre 8. On a commencé le livre avec le fait que l'homme était perdu, qu'il n'arrivait pas à se justifier lui-même par ses propres œuvres et que Dieu avait pourvu en Jésus un moyen d'être sauvé par la foi. Et on arrive à quelque chose un peu de grandiose, presque un chant de louange à la fin du chapitre 8 où il parle de son assurance que nous allons être sauvés en Jésus, que Dieu nous a donné quelque chose d'incroyable en Jésus. Et puis on arrive au chapitre 9 et on a un peu l'impression que le soufflet retombe, qu'on se dit mais pourquoi ça arrive ici ? Et alors il y a plusieurs idées. La première, et donc c'est un petit peu ce dont Pierre a parlé la semaine dernière, c'est que Paul avait vraiment à cœur ses frères et sœurs, sa famille physique, Israël, la nation d'Israël, et il était vraiment attristé qu'il n'ait pas accepté Jésus pour la majorité au moment où il écrit, qu'il l'ait rejeté. On sait que Paul était considéré comme un traître de la nation, que les Juifs, dans la plupart des villes où il allait, étaient souvent ses plus farouches opposants, que c'était eux qui voulaient le tuer, et c'est pour ça qu'il en a appelé à César, et il est allé à Rome vers la fin de sa vie. Et pourtant, malgré l'opposition dont qu'il subissait de leur part, il avait vraiment à cœur les Israélites. On sait que quand il arrivait dans une ville, il allait généralement premièrement parler aux Israélites dans la synagogue, il allait les voir, et une fois qu'il leur avait exposé l'évangile, et que dans la plupart des cas il les rejetait complètement, il allait ensuite parler aux non-juifs. Et donc, peut-être la manière la plus simple de voir ce passage dans ce texte, c'est qu'il est en train de se réjouir, il est en train de pousser des cris de joie, et puis il se dit ah, mais il y a ce petit truc. Et c'est un petit peu comme si vous avez un très proche ami ou un parent, quelqu'un dans la famille, que vous passez un très bon moment ensemble, que vous vivez quelque chose de très fort, mais qu'il manque quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Que quelqu'un qui vous est très proche, qui vous est très peut-être quelqu'un que vous avez perdu, etc. Et il y a ce petit pincement au cœur qui vous reste. Vous vous dites ah, c'est génial, mais ça, d'une certaine manière, ça pourrait être presque mieux s'il y avait ça en plus. Et je pense que un peu de manière naturelle, Paul dit mais waouh, mais ça serait encore plus incroyable pour moi s'il y avait mes frères et sœurs israélites. Alors c'est une première manière de voir la chose. La deuxième qu'on pourrait présenter, et le deuxième point, c'est que il est en train de nous expliquer que Dieu nous a pourvu, a promis des choses en Jésus et a construit ce plan du salut, tout ce qui nous expose jusqu'à la fin du chapitre 8, et il veut que nous ayons une assurance, que nous ayons une paix, que nous sachions que nous sommes sauvés, que nous ayons cette assurance. Et quelqu'un pourrait très bien dire, mais qu'en est-il, comment Dieu peut nous sauver, peut nous garder, peut faire toutes ces choses quand on voit Israël et le fait que d'une certaine manière, on a l'impression que Dieu les a rejetés. Il a fait plein de promesses dans l'Ancien Testament, c'était le peuple choisi, il y a toutes ces choses qu'on voit dans le début du chapitre ici, que les Israélites, au verset 4, ils avaient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et que Christ est venu sur terre par la nation d'Israël. Et on pourrait lui dire, mais je comprends pas, parce qu'il avait ça, et on a l'impression qu'il les a perdus en quelque sorte. Et on pourrait dire, mais donc comment est-ce qu'on peut être sûr? Donc ça suit aussi logiquement de dire, c'est une question honnête, de dire, mais je comprends pas, tu m'expliques tout ce plan incroyable. Pourquoi est-ce que les Juifs sont dans l'état dans lequel ils sont? Un troisième point qu'on pourrait voir dans la raison pour laquelle il veut expliquer ces choses, c'est aussi, il écrit à l'église à Rome dans cette lettre, et il y avait des Juifs croyants, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait, et peut-être qu'il voulait leur parler aussi, on pourrait d'une certaine manière, pour les Juifs, peut-être, dire, mais il y a ce plan du salut, mais les Juifs l'ont pas vraiment accepté. Si c'est vraiment le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament, comment ça se fait que les Juifs ne l'ont pas compris? Comment accorder ces deux choses? On a tout l'Ancien Testament, Paul est en train de nous présenter tout l'Ancien Testament, de présenter tout le plan, mais je comprends pas. C'est le Messie et pourtant les Juifs l'ont rejeté. Comment on réconcilie ces deux choses qui semblent ne pas aller ensemble? Et donc, je pense que pour ces différentes raisons, on peut regarder de différentes manières, mais je pense que ça permet de comprendre pourquoi Paul s'engage dans ces trois chapitres où il va discuter à propos de la nation d'Israël. Le chapitre 12, il va partir dans une partie pratique. Pierre en a parlé aussi la semaine dernière, dans l'idée que Paul, en général, écrit quelque chose où c'est très doctrinal, il nous explique les idées, il nous explique comment penser, et ensuite, il va, dans la plupart de ses lettres, avoir une partie où il nous explique, en fait, les aspects pratiques qui découlent de la pensée ou des idées. Donc, il nous a présenté le plan du salut des chapitres 1 à 8 de Dieu. Et puis là, ce passage, un peu comme une parenthèse des chapitres 9 à 11, et puis ensuite, à partir du chapitre 12, il va continuer avec la partie pratique qui découle de notre salut, comment on doit vivre, comment on doit se comporter. Mais on est dans ce passage aujourd'hui avec le début de cette explication. Alors, ce chapitre 9 nous parle, on va le dire simplement, qu'il nous parle de la souveraineté de Dieu et le fait que Dieu est souverain, que Dieu décide, que Dieu est Dieu, qu'il fait ce qu'il veut et il n'y a personne pour s'y opposer. Et peut-être en ouverture, c'est quelque chose que nous n'aimons pas. C'est quelque chose que notre nature humaine n'aime pas. C'est quelque chose que nous n'aimons pas aussi parce que nous n'avons pas de bons exemples de la souveraineté. Quand on dit le mot souverain, on pense à la monarchie absolue, on pense à des rois et des reines capricieux qui font ce qu'ils veulent, qui n'ont pas l'intérêt de leur citoyens ou de leur peuple forcément en première ligne. Et, et c'est quelque chose qui nous déplaît à cause de ça, mais aussi qui nous déplaît parce que on n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre décide pour nous. Donc c'est une idée qui est difficile à entendre, c'est quelque chose qui a du mal à passer dans nos têtes. C'est toujours un petit peu difficile et face à ce genre de choses, ce genre d'idées, c'est toujours important d'essayer de faire un petit effort supplémentaire et de reconnaître le fait que naturellement on va avoir un petit rejet, on a ces idées préconçues, ces réactions épidermiques qui restent en nous et qui font parfois qu'on a du mal à lire et à entendre et à écouter correctement les choses. Malheureusement, on n'est jamais complètement objectif, on est toujours subjectif dans comment nous vivons et comment nous recevons les choses. Et je pense que la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Ce passage, c'est un passage difficile, dans le sens où c'est un passage qui est aussi... qui donne lieu à beaucoup de débats théologiques par rapport à cette idée de souveraineté de Dieu face au libre arbitre de l'homme, par rapport à l'idée il y a ce qu'on pourrait des idées théologiques que sont l'élection des croyants, l'idée de la prédestination. Et donc c'est un passage qui souvent est difficile à présenter parce que c'est quelque chose qui est difficile à présenter, qu'il y a des idées qui sont difficiles à comprendre, mais c'est un passage que Dieu nous a donné, c'est un passage que Dieu voulait communiquer aux croyants, et donc on veut tirer ce qu'on peut de ce passage et comprendre ce que Dieu nous permet de comprendre ce matin. Alors pour résumer un petit peu on va dire, avant de regarder les versets un peu plus précisément, donc je vous disais qu'il y a cette difficulté à réconcilier un petit peu, d'accord, Dieu nous accorde le salut, veut que nous soyons sûrs, mais qu'est-ce qu'il en est des Juifs et le fait qu'on a l'impression qu'il a rejeté les Juifs et qu'ils sont tombés alors qu'ils avaient reçu les promesses. Et je pense dans ce chapitre, il va le faire en quatre parties. Il va expliquer le vrai sens de la promesse de Dieu. C'est ce qu'on a regardé un petit peu avec Pierre la dernière fois, avec Israël, les premiers versets. Ensuite, il va défendre l'idée de la souveraineté absolue de Dieu vis-à-vis des hommes, que Dieu décide comment il a envie d'interagir avec les hommes. Ensuite, il va montrer que le rejet des Juifs et l'accueil des non-Juifs par Dieu, le plan de Dieu pour les non-Juifs, c'était quelque chose que l'Ancien Testament annonçait. C'était pas quelque chose qui était une surprise. Et puis, il va aussi établir la vraie raison pour laquelle les Juifs sont rejetés sur la fin du chapitre. Donc on peut relire ensemble un petit peu ce qu'on a vu avec Pierre. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. » C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Donc on a parlé la semaine dernière du fait que Paul avait vraiment un cœur sincère ici quand il explique ces choses et qu'il voulait vraiment, il se souciait vraiment des Israélites, qu'il voulait leur faire comprendre combien il se souciait d'eux aussi pour qu'ils soient plus à même de recevoir ce qu'il leur disait. Pierre la semaine dernière nous a expliqué que si on sait que quelqu'un se soucie, a de l'amour, a soin de nous, veut vraiment notre bien, on va être plus à même d'entendre ce que la personne a à nous dire. Paul rappelle donc qu'ils ont tellement reçu, qu'ils ont une position tellement privilégiée, et puis ce verset dont Pierre a parlé aussi à la fin, où avec Christ issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, amen, et que le fait que c'était une déclaration très claire du fait que Jésus est Dieu, et que c'était un bon verset à retenir. Ensuite, on continue au verset 6. « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. » Alors ici, il explique qu'il y a une distinction à avoir dans la promesse de Dieu vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du fait que c'était pas le fait simplement d'appartenir à la nation d'Israël qui faisait que les Juifs étaient vraiment ceux que Dieu avait promis à Abraham dans sa descendance, qu'il y a un côté, il y a un aspect spirituel. On avait vu qu'Abraham avait eu d'autres fils, mais qu'il n'y avait qu'un des fils, et que c'était donc pas quelque chose de simplement biologique, cette promesse, mais qu'il y avait, c'était quelque chose où Dieu choisissait lesquels faisaient partie de cette descendance promise. Je vous encourage à réécouter l'enseignement de Pierre la semaine dernière si vous voulez plus de détails. On avait vu qu'Israël, alors dans les traductions, en général, dans cette traduction notamment, celle que nous avons ici, dans la Genèse 32, il est marqué qu'Israël signifie à lutter avec Dieu ou à vaincu Dieu. Il y a un peu un débat. Pierre, dans son enseignement la semaine dernière, nous a expliqué que c'était l'idée d'être conduit par Dieu, en fait. On voit dans Osée 12, il me semble, qu'il y a un passage où on voit que le récit, dans la Genèse, on a l'impression que Jacob lutte avec un ange pendant la nuit. Si ça vous intéresse, c'est dans la Genèse 32, si vous voulez le relire à un autre moment. Mais qu'il lutte avec un ange la nuit et que c'est lui qui en sort vainqueur en quelque sorte et qu'il obtient quelque chose par ses efforts. Et dans Osée, le récit qui nous est présenté, c'est quelque chose d'un peu plus nuancé où on a l'impression que c'est plutôt lui qui est vaincu et qui pleure et qui dit « mais pars pas sans m'avoir laissé quelque chose, s'il te plaît, je t'en prie ». Et donc je pense que si ça vous intéresse, il y a un peu un débat étymologique sur la signification exacte du nom Israël. Et je pense que c'est plus adapté, moi personnellement, je trouve que c'est plus logique que l'idée soit conduit par Dieu ou gouverné par Dieu. Et Pierre avait parlé de ça et de l'idée que tous ceux qui s'appellent Israël ne sont pas forcément conduits par Dieu ou gouvernés par Dieu. Tout comme tous les gens qui se disent chrétiens ne sont pas forcément vraiment des imitateurs de Christ, des gens qui suivent Jésus. Donc ici, dans le chapitre 9, quand il dit tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, le sens nous éclaire à ce moment-là où il dit tous ceux qui se disent Israël ne sont pas conduits par Dieu, ne sont pas ceux qui doivent arriver avec la promesse. Ensuite il parle donc d'Isaac, le fils d'Abraham, qui était le fils de la promesse. Il passe ensuite au verset 10, il dit « De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui l'appelle. » Ou qui appelle, pardon. « Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il était écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Donc il continue avec une idée supplémentaire. Il dit peut-être, vous pouvez vous dire que Abraham, c'était des demi-frères. Bon, d'accord, donc il y avait peut-être Isaac, c'était les demi-frères, mais c'est moins important. Il dit non, de plus, quand on regarde les enfants d'Isaac, c'était des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Dieu, dans sa souveraineté, en a choisi un pour être celui qu'il aimait le plus. Pierre a parlé aussi de ces versets, du fait que le verset 13, quand il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü », c'est une tournure hébraïque qui est utilisée plusieurs fois. On voit Jésus qui utilise cette tournure aussi. Et c'est l'idée que j'en ai aimé un plus et j'en ai aimé un moins. Dieu ne hait pas. Et donc c'est quelque chose que parfois, quand on le lit, on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » C'est un peu bizarre. Et en fait, c'est l'idée qu'il a aimé Jacob plus. Et Dieu a donc décidé dans sa souveraineté comment la lignée, que ça allait être par Jacob. On voit que c'était avant leur naissance même qu'il y avait une sorte de par avance, Dieu savait. Donc c'était pas dépendant des œuvres de comment ils allaient se comporter, mais c'était une décision souveraine de Dieu dans la vie de Jacob, mais aussi dans l'histoire d'Israël. Et c'est important dans le sens où les Juifs, peut-être qu'ils auraient pu dire, mais alors on va le voir dans la suite du chapitre, mais de dire, mais on a reçu ces choses. Ils avaient une fierté où ils disaient mais on est le peuple choisi, c'est nous et d'une certaine manière ils étaient arrivés à un point où c'était fini quoi, et ça leur convenait bien, et ils se disaient bon, maintenant Dieu, le plan il est terminé, il est ficelé et c'est comme ça. Et Dieu arrive par Jésus sur terre et leur plan tout ficelé aux Juifs, ils tombent par terre. Et d'une certaine manière, ils pouvaient se dire, mais quoi, non, c'est nous le peuple choisi. Et Paul, il commence et dit, non, mais rappelez-vous votre propre histoire. Dieu déjà, à ces moments-là, c'est lui qui souverainement, quand il le voulait, suivant comment il voulait faire les choses, suivant comment il voulait orienter l'histoire, qui décidait. C'est pas vous qui avez mérité. On sait très bien. Et donc il présente le fait que c'est Dieu qui décide. Une autre remarque, c'est que vis-à-vis de la souveraineté de Dieu, de cette idée de Dieu qui agit, qui permet des choses dans nos vies et qui est souverain, c'est une idée qui est toujours facile à accepter quand les choses que Dieu décide nous vont bien, et qui est toujours plus difficile à accepter quand les choses que Dieu décide ne nous conviennent pas. On dit oui, d'accord, j'ai gagné au loto, merci Dieu, c'est génial. Et puis j'ai un accident de voiture et on dit mais Dieu, pourquoi tu... Et donc il y a ce côté, c'est difficile pour nous d'accepter sa souveraineté. Et donc il continue au verset 14, « Que dirons-nous donc ? Dieu serait-il injuste ?» En écoutant ces histoires, en voyant Jacob et Ésaü, on peut être tenté de dire « Mais attends, les deux, ils n'étaient même pas nés et Dieu avait déjà décidé, mais quoi ? Il donne sa faveur à l'un, il n'est pas juste. » Et Paul dit certainement pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est jamais injuste vis-à-vis de l'homme. Dieu, dans le pire des cas, Dieu est juste avec nous. Dieu nous accorde ce que nous méritons. Ça, c'est dans le pire des cas. Nous méritons tous, en tant qu'hommes, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous tombés, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Nous n'arrivons pas à mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous méritons tous le jugement, l'enfer. Ça, c'est ce que nous méritons. Dieu est juste quand il nous accorde ça. Dieu est miséricordieux quand il ne nous donne pas ce que nous méritons. Il est plein de grâce quand il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et donc le miracle, dans ce cas-là, nous on regarde avec nos yeux d'homme et on dit « Mais attends, il y a Jacob, il a aimé Jacob plus et il a aimé Ésaü moins. Pourquoi ?» Mais nous, notre réflexion, c'est « Ah, mais pauvre Ésaü !» Non, la vraie manière de regarder cette histoire-là, c'est de dire ni Jacob ni Ésaü ne méritaient quoi que ce soit. C'est incroyable, c'est génial qu'il ait décidé d'accorder quelque chose à Jacob. Waouh ! Et c'est ça, on doit changer notre point de vue et se dire la chose incroyable, c'est que Dieu nous aime, que Dieu nous ait donné quoi que ce soit. Donc il dit, Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. Verset 15, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit, en effet, au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. L'exemple du Pharaon, c'est encore un cas où on a l'impression que Dieu est injuste. Quand on retourne dans le récit, il y a un passage où on voit qu'il est dit que Dieu endurcit alors le cœur du Pharaon. Et on se dit, mais pourquoi le Pharaon, lui, il se fait endurcir le cœur et après, voilà, c'est le pauvre, il n'a pas... Quand on regarde, si vous voulez aller regarder en détail le récit par vous-même, on voit que 10 fois, le texte dit que Pharaon endurcit lui-même son cœur, que lui-même décide de s'endurcir vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est qu'après toutes ces fois qu'il est dit que Dieu endurcit son cœur. Et les mots utilisés pour endurcir sont différents dans ces deux situations. Et l'idée, c'est que Dieu, simplement, d'une certaine manière, il affermit le cœur du Pharaon dans sa position qui est déjà établie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il respecte la décision du Pharaon. Le Pharaon endurcit son cœur, rejette Dieu, rejette Dieu, rejette Dieu. Et à un moment donné, Dieu il dit, d'accord, Et c'est ce qu'on voit aussi dans nos vies, dans la vie des gens qui autour de nous. Et ça fait partie des choses qui sont difficiles, mais c'est ce mélange entre la souveraineté de Dieu, Dieu qui agit, et aussi le fait que nous avons une liberté. Et Dieu nous a donné une liberté de choix vis-à-vis de lui, et on a aussi la possibilité de lui dire non et de le rejeter. Et à un moment donné, ce sera final. Ce sera d'une certaine manière un endurcissement de la part de Dieu dans ce choix de le rejeter. Et donc on voit au verset 18, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Là, on voit la souveraineté de Dieu dans son plan, là aussi, dans la manière dont il utilise les hommes, les circonstances. On va le voir plus loin, mais cette idée qu'il peut utiliser certaines personnes qui peut-être font le mal, qui font de mauvaises choses, et il peut l'utiliser pour se glorifier, pour sa gloire. Tout comme il peut utiliser les gens qui font le bien, qui le suivent, qui veulent le servir. Il peut utiliser les deux pour son plan, dans sa souveraineté. Et On continue dans cette idée au verset 19 où il dit « Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ?» Quand on continue cette réflexion, vis-à-vis du Pharaon notamment, on peut dire, mais à ce moment-là, on a l'impression que Dieu, c'est Dieu qui a poussé Pharaon à décider comment il a décidé, à ne pas l'écouter, et on a l'impression d'une certaine manière que c'est Dieu lui-même qui le contrôle, et que derrière Dieu le condamne en disant, bon, bah, je te juge, tu es responsable de ce que tu as fait, et on dit, mais attends, c'est toi qui l'as poussé à faire quelque chose, et après tu le juges et tu dis qu'il est responsable. Et c'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut résister à sa volonté? Si c'est Dieu qui est souverain, qui décide tout, qui dirige tout ce qui se passe, comment est-ce qu'à la fin on peut encore se dire, mais il va nous juger en quelque sorte pour ce qu'on a fait ou pas fait, ou comment on a vécu, comment on a... Et Paul, alors on va parler un petit peu de cette idée de souveraineté après, mais simplement, on peut, d'une certaine manière, on pourrait dire, bon, s'il est souverain comme ça, alors je suis pas responsable, c'est pas de ma faute, ce qui est un réflexe humain très naturel aussi, on est toujours à pointer du doigt les autres. On se souvient le récit de la chute de l'homme avec Adam et Ève dans le jardin, et le premier réflexe d'Adam quand Dieu lui demande ce qui se passe, il dit c'est à cause d'Ève, la femme que tu m'as donnée. Donc il dit c'est la faute d'Ève et c'est ta faute parce que tu me l'as donnée. C'est vraiment un réflexe qui est bien ancré dans nos cœurs de détourner l'attention et de dire c'est pas de ma faute. On le voit aussi chez les enfants. Ma fille n'a pas encore accusé Django, que je sache, mais j'imagine que ça ne saurait tarder. Mais Paul, il dit simplement, Dieu dit que tu es responsable de ce que tu choisis de faire. Qui es-tu, toi, pour décider, pour dire non, je ne suis pas responsable? C'est un manque de respect. Et l'idée qu'il utilise ici avec le potier, c'est une idée qui est présente dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits, l'idée que Dieu nous façonne comme il a envie de nous façonner. Et l'idée ici, c'est simplement aussi l'idée d'un créateur. Si vous créez quelque chose, si j'écris une chanson et que la chanson s'arrête et me dit « Mais pourquoi t'as utilisé ce mot-là? C'est nul » ou « C'est complètement ridicule ». La créature est créée, elle n'a pas à se plaindre et dire « Mais c'est quelque chose d'un peu absurde en quelque sorte. Et c'est ce que Paul dit ici, quand quelqu'un qui façonne un vase, est-ce que le vase va dire « Mais pourquoi tu m'as fait dans cette forme-là » C'est juste ridicule en fait. Et il dit, que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs. Donc ici, on a ces versets qui aussi sont difficiles, où on peut se dire, mais c'est Dieu qui décide, qui va en destiner certains à être des vases de colère, tout prêts pour la perdition, ou d'autres qui sont préparés pour la gloire. Comment réconcilier ces choses et on lit ces versets ne nous plaisent pas. Mais il y a des petites nuances à apporter. Il dit pas que Dieu a fait. Il dit si Dieu voulait le faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il a pas dit que dans le verset, il n'a pas dit qu'il avait, forcément fait les choses, mais il y a ceci. On note aussi, par exemple, que les vases de colère tout prêts pour la perdition, il n'est pas dit que c'est Dieu qui les a préparés pour la perdition. On ajoute, on lit ces passages avec notre subjectivité et on regarde et on se dit mais c'est Dieu qui va décider de qui est destiné à la colère et de qui est destiné à la gloire. On va en parler après, donc je passe. Mais l'idée, c'est que Dieu est souverain et il peut décider comment il agit. Et qui sommes-nous pour nous y opposer? C'est une question qui peut être parfois difficile. Si on regarde l'état du monde, si on regarde l'histoire de l'humanité, je vous ai déjà parlé du fait que j'aime bien certains épisodes de l'histoire. Ces derniers temps, je regardais pas mal ou j'écoutais des séries podcasts sur la Première Guerre mondiale, que j'avais appris que j'avais certains de mes ancêtres qui sont morts à la guerre de 14-18. Et donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et plus d'une fois, je me suis dit, Dieu merci que je ne sois pas né à cette époque-là et que je n'ai pas eu à vivre ça. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai un peu une question dans ma tête et je me dis, mais Dieu, comment quelque chose comme ça a pu se passer? Comment tu peux permettre ces choses? Comment tu as pu accepter que des gens vivent, naissent, soient présents, subissent ces choses? Et il y a plein de moments dans l'histoire, il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où il y a des choses horribles qui se passent et on peut se dire, mais on peut se dire, Dieu, tu es injuste, Dieu, tu fais mal les choses, Dieu. Et Paul dit non, il est souverain, il décide ce qu'il veut faire et qui sommes-nous pour le remettre en question? On doit croire que Dieu est juste. Et c'est là aussi où c'est difficile parce qu'on manque de foi, on manque de confiance en Dieu, on montre qu'on ne connaît pas assez bien Dieu parce qu'on lui attribue à tort l'idée qu'il va faire du mal ou qu'il va faire mal les choses. On a tellement de mal à réconcilier l'idée d'un souverain absolu, d'un souverain qui décide tout et qui puisse en même temps avoir l'intérêt de tous vraiment dans son plan, dans son cœur, dans ce qu'il veut faire, qu'il veut vraiment sauver tous les hommes, qu'il veut vraiment qu'il aime tous les hommes, on a aussi le problème que nous on a un peu souvent si y a le bien qui arrive à certaines personnes, alors il y en a qui vont y perdre un petit peu au change, quoi. Tout le monde peut pas gagner, quoi. On peut pas tous être millionnaires, hein. Il faut bien qu'il y ait des gens qui et dans l'économie de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous peuvent gagner et tous peuvent être riches en Dieu et donc on a vraiment du mal à comprendre et à réconcilier cette idée de souveraineté de Dieu. Et les Juifs, sans doute, luttaient vraiment avec ce changement, avec l'idée qu'ils étaient le petit peuple choisi aussi et maintenant il y a des non-Juifs, qu'est-ce qui se passe? On voit dans les épîtres les luttes qu'il y a eu dans l'Église des premiers temps où les Juifs essayaient de dire bon ben d'accord, on veut bien que vous soyez chrétiens mais bon, on va quand même respecter les règles des Juifs, et puis les gens disent non, en fait on est passé à autre chose. Tout un débat avec Pierre, avec Paul, et donc ils ont du mal aussi avec cette idée, et c'est là l'explication et pourquoi Paul présente toutes ces choses. Et puis là, il leur explique que Dieu est souverain vis-à-vis des hommes, et puis il va continuer en leur disant ces choses ne devraient pas vous surprendre parce qu'elles étaient annoncées. Il leur dit, c'est aussi ce que dit dans le livre d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc c'est des citations dans Osée, où il dit qu'il va avoir un peuple qui n'est pas son peuple, qui va être appelé son peuple, mais aussi où il dit qu'il avait demandé à Osée d'appeler un de ses enfants Lo-Ami, ce qui voulait dire « pas mon peuple », pour dire qu'Israël allait être rejeté. Mais on voit au verset 26 qu'il a une promesse aussi, où il dit « ils seront appelés fils du Dieu vivant », qu'il y a aussi une promesse de restaurer Israël à un moment. Puis il continue au verset 27, « Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Donc ici aussi, on a l'idée qu'Israël rejette Jésus, mais qu'il y a une promesse, il y a quelque chose encore pour la nation d'Israël, qu'il a encore un plan, qu'il n'en a pas fini avec eux. C'est tout un ce passage et ces choses par rapport à Israël ouvrent évidemment tout un débat théologique qui est assez long et pointilleux et que je veux pas avec lequel je veux pas m'attarder ce matin, mais juste vous dire que c'est là et qu'on face à ces choses, face à ces promesses, face au plan de Dieu pour les âges, pour l'humanité, qu'on doit avoir une situation et une interprétation avec une très forte dose d'humilité, parce qu'on a souvent du mal à comprendre. Mais en tout cas, il y a tout un débat par rapport à ce que veulent dire vraiment ces versets, mais je pense que c'est l'idée qu'il y a un espoir et encore un plan de Dieu vis-à-vis de la nation d'Israël. Que dirons-nous donc, verset 30 ? Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Et donc ici, il va continuer en expliquant un peu la vraie raison pour laquelle les Juifs n'ont pas accepté le Messie, pas parce que c'était quelque chose qui n'était pas n'allait pas avec leur histoire, n'allait pas avec le plan de Dieu, mais simplement parce que dans leur fierté, ils voulaient mériter la justice de Dieu, ils voulaient l'obtenir par leur propre force, par la loi, par leurs efforts. Et c'est ce qu'on avait vu dans le début du livre, où il dit que c'est pas par nos efforts, que c'est par la grâce. Et donc il dit, les non-juifs qui ne recherchaient pas la justice, ils n'étaient pas particulièrement religieux, ils n'avaient pas de relation avec Dieu, et Dieu leur a accordé par Jésus la justice, alors que les juifs qui eux étaient vraiment religieux, voulaient vraiment chercher la volonté de Dieu, voulaient vraiment faire ce que Dieu leur avait donné dans la loi, ils n'ont pas trouvé la justice. Verset 32, pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et là aussi, on a un peu un mélange où on voit que Dieu est souverain, Dieu décide, Dieu choisit comment il veut se conduire vis-à-vis des hommes dans l'histoire. Mais sur la fin, et on va le voir dans le chapitre 10, il revient sur la responsabilité de l'homme, le fait que c'est les Juifs qui se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, qui n'ont pas accepté ce que Dieu a prévu, le plan de Dieu, qui n'ont pas accepté ce Jésus que Dieu avait envoyé. Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et encore une fois, c'était quelque chose pour les Juifs qui pouvait être très difficile à entendre, cette idée que malgré leur privilège de nation, que le plan du salut pour Dieu, c'était quelque chose qui allait être la même que pour n'importe quel non-juif que les Juifs méprisaient, que Dieu allait accorder quelque chose de manière totale à tous les hommes. C'était quelque chose à laquelle ils se sont heurtés et qu'ils ont refusé dans leur fierté. Et c'est pour ça qu'en grande partie, Israël a rejeté Jésus. Et donc Paul leur dit, voilà, c'est le plan et la raison pour laquelle les Juifs n'ont pas accepté, c'est parce qu'ils sont trop fiers, ils veulent mériter leur propre salut et ils n'ont pas accepté le don gratuit de Jésus. Et donc ce passage, c'est, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est difficile à cause de cette idée de souveraineté de Dieu vis-à-vis du libre arbitre de l'homme. La Bible nous enseigne en même temps que Dieu est souverain, qu'il nous connaît d'avance, la Bible nous dit dans Éphésiens 1:4, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans Jean 15:16, il dit « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et il y a d'autres versets comme ça. Donc la Bible nous enseigne qu'il y a une idée que Dieu, par avance, nous a choisi, nous a élus, qu'il y a quelque chose qui est indépendant, en quelque sorte, de notre contrôle, qui est là avant. Et en même temps, la Bible nous enseigne que l'homme est libre de venir à lui ou de le rejeter. Il veut que tous soient sauvés. Dans Jean 1:12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Dans 2 Pierre 3:9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans 1 Timothée 2:4, il est dit « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il y a beaucoup de versets qui nous présentent ces deux vérités comme étant vraies. Et si on essaye de réconcilier ces deux idées de manière logique, on va avoir une rupture d'anévrisme. Alors nous ici à l'Église, on a une position que j'aime considéré comme une position équilibrée qui est entre les deux, à savoir que la Bible nous enseigne les deux. Dans certains mouvements d'Église, dans certaines interprétations doctrinales, il y a des gens qui tendent plus dans un sens, dans le sens où qu'on appelle souvent calviniste, qui est l'idée que c'est Dieu qui a décidé avant et que nous sommes un petit peu c'est pas notre choix. Et je pense que si c'est porté à une extrême, c'est quelque chose de mauvais parce que à ce moment-là, on dit tant pis, c'est pas de ma faute, je fais ce que je veux et je suis élu ou pas. Et voilà. Et ça tend à un excès et à des excès. Et on voit des corrections que Paul a apportées par rapport à cette position-là. Et si on va dans l'autre sens et en disant non, Dieu n'intervient pas et on est complètement libre et voilà. Ça va à l'encontre aussi de beaucoup de versets et de beaucoup de choses qui sont annoncées, qui sont déclarées dans la Bible. L'idée que c'est Dieu qui a une préscience, qui voit les choses à l'avance et qui nous a choisis par avance. Et ces deux choses coexistent en même temps. Et j'en ai déjà parlé, mais cette idée que là, il y a des réalités spirituelles, il y a des vérités dans la Bible qui pour nous sont difficiles, voire impossibles à vraiment comprendre, à vraiment intégrer. Et je pense que ces deux vérités sont toutes les deux vraies et sont en même temps complètement vraies. Et Dieu veut que nous l'acceptions simplement par la foi, parce que sa parole nous l'annonce comme ça. Pierre avait parlé et nous avait rappelé que notre intelligence devant Dieu, face à Dieu, face aux choses de Dieu, est limitée. Dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9 nous disent en effet « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Dieu est trop grand pour que nous puissions vraiment tout comprendre, tout mettre dans une boîte de théologie systématique, tout ficeler à la lettre. Il y a des choses où nous devons avoir de l'humilité et dire la Bible nous les annonce comme vraies, elles sont là. Je trouve très intéressant dans le monde réel que la lumière, que les physiciens décrivent la lumière comme ayant deux aspects, que c'est à la fois décrit, alors si ça vous intéresse là aussi, vous pouvez aller regarder sur internet, c'est ce qu'on appelle la dualité onde et corpuscule. L'idée que suivant les expériences qu'ils font, on va dire que la lumière se comporte comme une onde, un peu comme une vague, ou parfois que la lumière se comporte comme des corpuscules, comme des petites billes en quelque sorte, de manière très vulgaire, évidemment je ne suis pas physicien. Mais les deux modèles marchent à certains moments, suivant comment on regarde, suivant comment on voit les choses. Et pendant longtemps, il y a eu des débats pour dire non, c'est l'un ou c'est l'autre. Et maintenant, ils se disent en fait non, il doit avoir une théorie plus qu'on n'a pas encore captée, qui est au-dessus, qui permet d'expliquer les deux réalités et de les unir ensemble. Et de la même manière, pour nous, il y a quelque chose de plus que nous n'avons pas compris, que nous ne pouvons saisir, qui est qu'en même temps, Dieu nous a choisis par avance et en même temps, nous sommes responsables vis-à-vis de Dieu pour le choisir, pour l'accepter, pour répondre à son appel. Et ce matin, je préparais ce passage et je me disais, c'est un peu un passage où on dit d'accord. Et alors, tu m'as présenté plein d'idées, de théories et de choses un petit peu la dualité onde corpuscule, ça m'aide pas forcément au jour le jour. Comment ça m'affecte. Et parfois même, je sais que certaines personnes m'ont déjà fait la remarque qu'ici à l'église, que Calvary Chapel, nous sommes un mouvement où nous enseignons la Bible verset par verset, chapitre par chapitre, on essaie de faire de manière systématique, qu'il y a des passages comme ça où on se dit mais c'est un petit peu... Ce matin je rentre pas à la maison en étant super édifié ou en me disant yes, j'ai le feu là, j'ai pas... Et j'étais un petit peu, en quelque sorte, j'étais un petit peu en train de me dire, il faut que je trouve quelque chose de plus. Alors il y a des choses à tirer, évidemment, il y a des choses à dire pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais j'étais un petit peu repris par le Seigneur dans le sens où c'est sa parole. La parole de Dieu a une puissance intrinsèque en elle-même et que si nous sommes fidèles pour la lire, pour l'étudier, pour essayer de la comprendre, pour l'écouter, qu'elle a un effet sur nos vies. Et que ces choses, ce matin, peut-être qu'on se dit, ouais, d'accord, c'est un peu, ça m'intéresse pas trop et je laisse passer, mais ces choses, Dieu nous les a données et ces choses ont quelque chose pour chacun d'entre nous. Et je suis pas obligé d'aller forcément à chaque fois chercher quelque chose à vous dire faites ceci, faites cela. Évidemment, il y a des choses qu'on peut trouver dans ce texte. C'est pas tout ce que je voulais dire, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu trop, peut-être trop sec. Mais je pense que C'est déjà bien de se rappeler le chapitre 8, de dire on a, Dieu veut que nous ayons cette assurance. Dieu nous a accordé le salut en Jésus. Et que d'une manière merveilleuse, il y a un équilibre entre le fait qu'il nous a choisis et le fait que tous peuvent répondre et peuvent l'accepter et peuvent accepter ce don qui est fait à tous les hommes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, il y a tellement à dire, tellement plus à dire, Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance par ton esprit pour nous parler à chacun, pour rendre ta parole vivante dans nos vies, efficace, Seigneur, acérée. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet, Seigneur. Et Seigneur, vis-à-vis de ces idées, Seigneur, de ton appel, de ta souveraineté, Seigneur, mais aussi vis-à-vis de notre libre arbitre, de notre responsabilité, Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans des excès, Seigneur. Aide-nous à accepter ce que tu nous dis dans ta parole, les deux parties, et à pas la tordre pour qu'elle rentre dans nos cases, dans nos boîtes, Seigneur. Je te remercie pour ce temps ensemble, Seigneur, ce temps en famille, ce temps spécial, Seigneur, où nous sommes avec toi, Seigneur. Il y a quelque chose de bon ici, Seigneur, et nous voulons croire que tu es présent parmi nous. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Dans ta souveraineté, tu as permis ce plan merveilleux du salut pour tous les hommes. Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur. Comme nous l'avons dit, tu serais juste de nous condamner tous, Seigneur, et tu as, dans ta grâce, permis que nous puissions venir à toi. Sois glorifié ce matin, Seigneur, sois élevé parmi nous. Seigneur, tes voix sont au-dessus de nos voix et nous voulons te louer, simplement t'adorer, te dire que tu es grand, que tu es juste, que tu es bon, Seigneur. Et accepter ces choses parfois difficiles à entendre par la foi, Seigneur, parce qu'on croit que tu nous les présentes comme vraies. Merci, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.